Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Jean Castex parle ce soir pour confirmer ou non le déconfinement partiel de la semaine prochaine. Les indicateurs sanitaires sont préoccupants et la réouverture des lieux de culture pourrait être remise en cause. Claire Flochel écoute le Premier ministre. Nous y revenons à la fin de ce journal. Jérôme Salomon dans le viseur de la commission d'enquête sénatoriale sur la crise sanitaire. Pour les sénateurs, le directeur général de la santé a une lourde responsabilité dans la pénurie de masques au printemps. Le budget et le plan de relance au menu du sommet européen aujourd'hui et demain. La Hongrie et la Pologne ont levé leur veto et le régime hongrois se félicite d'avoir fait plier Bruxelles. La nouvelle provocation de Recep Tayyip Erdogan en visite à Bakou pour célébrer la victoire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Le président turc a appelé son allié à poursuivre la lutte contre l'Arménie. La jeune Mila, exclue du lycée militaire où elle avait trouvé refuge. Mila, 17 ans, avait été menacée de mort après avoir critiqué l'islam sur les réseaux sociaux. C'est le deuxième rapport parlementaire qui pointe les lacunes du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Après la commission d'enquête de l'Assemblée, son homologue du Sénat a rendu public son rapport ce matin, un document très critique qui a la particularité de désigner un responsable, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Pour les sénateurs, Rosalie Lafarge, Jérôme Salomon est fautif dans la pénurie de masques au printemps en France.
C'est une succession d'erreurs qu'attribuent les sénateurs à Jérôme Salomon. D'abord, celle d'avoir décidé il y a 2 ans de ne pas renouveler le stock de masques chirurgicaux. Pourtant, en 2018, le professeur Salomon est informé par Santé publique France, l'agence sanitaire, de la non-conformité de la quasi-totalité des masques stockés. Il choisit alors, sans prévenir, soulignent les sénateurs, de détruire les plus de 600 millions de pièces concernées et de n'en racheter que 100 millions. Catherine Deroche, la rapporteure LR de la commission d'enquête.
Concrètement, il a donc été décidé subitement, unilatéralement, sans en référer au pouvoir politique, que le pays ne pourrait plus compter sur un stock massif de masques, et ce, sans même avoir vérifié surtout que les capacités d'approvisionnement permettaient de prendre rapidement le relais en cas de crise. Donc on a en fait affaibli l'état de préparation du pays, mais sans en référer à quiconque.
Une décision pas totalement assumée par le DGS, expliquent encore les sénateurs, puisque Jérôme Salomon aurait, selon des échanges de mails publiés par la commission d'enquête, fait modifier un rapport d'experts recommandant d'avoir des stocks bien plus massifs. Bernard Jomier est sénateur écologiste.
On établit formellement qu'il y a eu intervention du directeur général de la Santé sur un rapport d'experts. Ce rapport a bien été modifié. Et ça, c'est un dysfonctionnement grave du fonctionnement des pouvoirs publics.
La Direction générale de la Santé n'a pas répondu à nos sollicitations, mais quoi qu'il en soit, sans nier la gravité de ces faits, d'autres sénateurs, communistes notamment, insistent. Si on en est là aujourd'hui, ce n'est pas la faute d'un seul homme et d'une seule décision, mais bien d'un système de santé à bout de souffle, épuisé depuis déjà des années.
Rosalie Lafarge, merci. Partout en Europe, la deuxième vague pandémique est violente. L'Allemagne, qui faisait figure de bon élève au printemps, n'est plus épargnée. Outre-Rhin, le nombre quotidien de décès dépasse régulièrement les 400 depuis lundi. Le pays compte désormais plus de 20 000 morts du coronavirus. Conséquence, les Länder, les régions allemandes, se reconfinent progressivement. Et la voix chargée par l'émotion, la chancelière Angela Merkel a plaidé hier en faveur d'un durcissement des restrictions. À Berlin, un reconfinement strict débutera juste avant Noël. Il restera en vigueur jusqu'au 10 janvier. Le reportage de Ludovic Quétenu.
Dans cette jolie rue commerçante du quartier de Kreuzberg, la Greifestrasse, ce n'est pas encore le confinement strict qu'il n'y a déjà pas foule. Non pas parce qu'il y fait 0 degré, mais bien parce que les Berlinois, à force d'être désignés comme des mauvais élèves dans la lutte contre la pandémie, ont fini, dit ce commerçant, par rester chez eux. Je le vois, les gens viennent moins, dit ce fleuriste. Ou bien ils ne sortent que pour les choses les plus importantes, où ils achètent en ligne. Pour nous, en tant que commerçants, baisser le rideau, Noël sera déjà passé, c'est la moins pire des options, et juste après, en général, on n'a pas beaucoup d'activité. Les Berlinois, comme le reste du pays, s'attendent à ce reconfinement. Ils ont bien entendu hier le message de la chancelière Merkel. La voix étreinte, au bord des larmes. Il nous faut absolument réduire les contacts, disait-elle, admettant que ce que les Allemands ont appelé avec un mot anglais le lockdown light, le confinement léger, ne fonctionnait plus. Ça ne marche pas, dit Daina, cette étudiante. Ce confinement, c'est comme boire du soda light ou zéro quand vous voulez maigrir. Ça ne fonctionne pas. À l'arrêt de bus en face, Wolfgang, retraité, du genre fataliste. Je dois l'accepter, dit-il. Il n'y a rien d'autre à faire. Moi, vous savez, Noël, c'est pas mon problème. On est bien à la maison. Je préfère rester en vie plutôt que de finir à l'hôpital.
Voilà pour ce reportage à Berlin de Ludovic Piétenu, notre correspondant en Allemagne. Vaccin, peut-il y avoir une Europe de la santé? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. L'Union européenne va-t-elle sortir de l'impasse budgétaire? C'est tout l'enjeu du sommet de Bruxelles aujourd'hui et demain. Sous l'impulsion de la présidence allemande, la Hongrie et la Pologne seraient finalement disposées à lever leur veto au plan de relance européen. Rappelons que Budapest et Varsovie refusent de voir les aides européennes subordonnées au respect de l'état de droit. On saura d'ici demain si les dirigeants européens valident ce compromis négocié par l'Allemagne. Les deux pays réfractaires pourraient saisir la Cour européenne de justice pour contester ce mécanisme sur l'état de droit. Mais d'ores et déjà, à Budapest, le gouvernement de Viktor Orban crie victoire, Florence Labruyère.
Si la proposition allemande est entérinée par les autres gouvernements, Viktor Orban aura obtenu ce qu'il souhaitait, repousser au calende grec l'introduction du nouveau mécanisme sur l'état de droit. Le Premier ministre hongrois s'est montré très confiant en arrivant à Bruxelles. Et ses ministres crient déjà victoire. « Nous avons gagné », a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères. « L'Europe voulait nous forcer à accepter des migrants et c'est pour cela que nous avions mis notre veto au budget », a ajouté le ministre. Un fait totalement inexact, mais le gouvernement Orban communique quotidiennement cette propagande à ses électeurs. La proposition allemande est un véritable cadeau électoral à Viktor Orban, soulignent des médias indépendants. Car avant que la Cour de justice européenne examine le nouveau mécanisme de l'état de droit, il s'écoulera au moins 2 ans. Or, les prochaines élections en Hongrie sont dans 1 an et demi. Viktor Orban va pouvoir continuer à bénéficier des fonds européens et briguer un prochain mandat en toute sérénité. Angela Merkel aurait pu arrêter le train de Viktor Orban, mais au lieu de cela, elle a remis du charbon dans la locomotive, déplore un éditorialiste de gauche. Mais d'autres constatent que la stratégie anti-européenne de Viktor Orban, qui ne cesse de critiquer Bruxelles, semble s'émousser. Selon un sondage récent, 77% des Hongrois veulent que les aides européennes soient rattachées au respect de l'état de droit. Un quart des électeurs de Viktor Orban serait favorable à ce principe.
Florence Labruyère, notre correspondante en Hongrie. Pour répondre à la crise sanitaire, les gouvernements européens ont dû creuser leurs déficits et donc s'affranchir des règles de l'orthodoxie budgétaire. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a décidé aujourd'hui d'accroître son soutien aux États membres avec un motif d'inquiétude, la persistance d'une faible inflation qui pourrait ralentir la reprise économique attendue l'an prochain, Marie Viennot.
Sans surprise, la Banque Centrale Européenne a acté aujourd'hui que la deuxième vague de coronavirus et les différentes mesures de restriction remettaient en cause les hypothèses faites précédemment pour l'économie de la zone euro. Nous avions tous prévu qu'il y aurait une deuxième vague, a déclaré Christine Lagarde, la présidente de la BCE, mais sa profondeur et sa durée et les mesures de confinement associées n'avaient pas été anticipées. Un aveu précieux et rare. L'incertitude reste élevée, dit la BCE, en ce qui concerne la dynamique de la pandémie et le calendrier de la distribution de vaccins. La croissance de la zone euro serait de 3,9%, estime la BCE en 2021, et non 5% comme prévu en septembre. Quant à l'inflation, qui est négative en ce moment, sans qu'on parle pour autant de déflation, elle devrait rester en dessous de zéro les premiers mois de l'année, puis atteindre 1%, a estimé Christine Lagarde, qui a exhorté les États à ne surtout pas mettre fin brutalement à leur soutien budgétaire. Pour cela, du coup, la BCE a annoncé qu'elle prolongeait d'un an le programme d'urgence pandémique qui lui permet d'acheter les emprunts que font les États pour financer les mesures anti-crise. Elle a porté le plafond de ses achats à 1850 milliards d'euros et elle a aussi prolongé les prêts qu'elle fait aux banques pour les inciter à ne pas fermer la pompe à crédit. Alors que, justement, ces crédits commencent à ralentir, signe que les banques et les investisseurs, entreprises ou particuliers, manquent de confiance en l'avenir.
Marie Viennot, merci. Le sommet européen de Bruxelles doit aussi évoquer la question des sanctions contre la Turquie. Une menace qui n'a pas l'air d'effrayer Recep Tayyip Erdogan. Le président turc est à Bakou aujourd'hui pour célébrer la victoire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Reçu triomphalement dans la capitale, le maître d'Ankara a une nouvelle fois jeter de l'huile sur le feu. Il appelle à poursuivre la lutte contre l'Arménie, Bertrand Galichet.
Accueilli avec un défilé militaire exhibant notamment des drones de fabrication turque qui ont joué un rôle décisif dans la victoire, le président Erdogan n'a pas boudé son plaisir. Officiellement, Ankara n'a pas pris part à la guerre, mais pour que nul n'en ignore, des forces spéciales turques ont défilé au milieu de cette parade, une forme de provocation, alors que les services de renseignements occidentaux ont aussi confirmé la présence au Nagorno-Karabakh de miliciens syriens envoyés par la Turquie et dont rien ne prouve qu'ils en soient repartis. En toile de fond de cette réception grandiose, la perspective de nouveaux accords de défense entre Turquie et Azerbaïdjan et peut-être l'installation d'une base militaire turque. La coopération sécuritaire entre les deux pays est déjà étroite. Le dirigeant turc assume son implication politique dans le conflit. Selon Recep Tayyip Erdogan, le fait que l'Azerbaïdjan a sauvé ses terres de l'occupation ne signifie pas que la lutte est terminée. Dans les sphères politiques et militaires, elle va se poursuivre sur de nombreux autres fronts. Le président Erdogan s'en prend aussi à l'Arménie, sommée de comprendre qu'elle n'obtiendra aucun résultat avec les encouragements de ceux qu'il appelle les impérialistes occidentaux.
Bertrand Galichet, merci. Et justement, le président turc a aussi appelé le peuple arménien à se débarrasser de ses dirigeants. Allusion aux milliers de manifestants à Yerevan qui protestent régulièrement contre leur premier ministre Nikol Pachinian. Au Liban, 4 mois après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, le juge chargé de l'enquête a inculpé plusieurs responsables politiques pour négligence. Le 4 août, près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium, stockées depuis 2014 dans le port sans aucune précaution, avaient explosé. Ça avait soufflé une partie de la capitale, plus de 200 morts, 6500 blessés, 300 000 personnes affectées. Aurélien Colli nous appelle de Beyrouth.
C'est la première fois qu'un premier ministre en exercice est inculpé au Liban, mais Hassan Diab a la conscience tranquille selon son cabinet. Lui qui a pris ses fonctions en janvier dernier, alors que le nitrate d'ammonium était dans le port de Beyrouth depuis 2014. Il a les mains propres, il a géré ce dossier en toute transparence, ajoute encore l'entourage du premier ministre libanais, qui a démissionné en août dernier au lendemain de l'explosion, mais qui expédie encore les affaires courantes, faute de nouveau gouvernement. Les trois autres inculpés, eux, ne sont plus en fonction. L'un était ministre des Finances, ces 6 dernières années, supervisant donc les douanes qui contrôlent ce qui entre et sort du port de Beyrouth. Les deux autres étaient ministres des Transports. La gestion du site relève de leur portefeuille. Alors que 25 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent, agents administratifs ou employés du port, ce sont les premières inculpations qui visent des responsables politiques. Ce que réclament les Libanais depuis 4 mois maintenant, une instruction transparente, hermétique aux pressions et surtout qui ne se contente pas de second couteau.
Aurélien Colli, notre correspondant au Liban. Cette information historique dont nous avons pris connaissance juste avant ce journal, Donald Trump vient d'annoncer sur Twitter la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Le président américain avait déjà obtenu que 3 autres pays arabes établissent des relations avec l'État hébreu, les Émirats, Bahreïn et le Soudan. Alice Froussard nous appelle de Jérusalem.
C'est une journée historique, annonce Donald Trump sur son compte Twitter lorsqu'il précise qu'Israël et le Maroc se sont mis d'accord sur la normalisation complète de leurs relations diplomatiques. Jusqu'alors, officiellement, le Maroc n'entretenait pas de lien avec Israël. Les liens ont été formellement établis en 1993 après la signature des accords d'Oslo, mais ont été rompus après la deuxième intifada en 2000. Cependant, on ne peut pas vraiment parler de surprise, car le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait tenté plusieurs fois, en 2019, de faire avancer un accord tripartite entre Israël, les États-Unis et le Maroc. Et puis les responsables israéliens et américains ont précisé travailler dur sur un effet boule de neige suite aux accords de normalisation annoncés cet été. Donald Trump a aussi précisé sur son compte Twitter que les États-Unis reconnaissent en retour la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, cette longue bande de terre toujours considérée non autonome par les Nations Unies et dont le partage n'est toujours pas acté et depuis 45 ans, l'un des tout derniers conflits post-coloniaux. En tout état de cause, cette reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est très controversée et va à l'encontre du droit international.
Alice Froussard, correspondante en Israël. Mila, cette jeune fille menacée de mort pour avoir critiqué l'islam sur les réseaux sociaux, a été exclue du lycée militaire où elle avait trouvé refuge. Information de l'hebdomadaire Le Point, confirmée par nos confrères de France Bleu Isère. Mila, 17 ans, avait dû quitter son lycée de Villefontaine au début de l'année car l'établissement ne pouvait plus assurer sa sécurité. Après plusieurs mois passés à vivre recluse, la jeune fille avait finalement pu poursuivre sa scolarité dans ce lycée militaire. Emmanuel Grabé, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Mila a été exclu parce qu'on lui reproche d'avoir révélé le nom de l'établissement sur les réseaux sociaux.
Oui, c'était au cours d'une vidéo en direct la semaine dernière, une conversation avec une vingtaine de personnes, selon le père de l'adolescente. Conversation au cours de laquelle elle mentionne en effet le nom de l'établissement, cette seule indication permettant d'en déduire l'emplacement. Or, en l'acceptant dans son effectif à la rentrée de septembre, la direction de cet internat militaire avait posé comme condition que Mila cesse de communiquer sur les réseaux sociaux. Direction qui affirme que révéler, même par inadvertance, l'endroit où elle est désormais scolarisée représente une menace potentielle pour la sécurité de l'ensemble de l'établissement et de ses élèves, tant la jeune fille est la proie de menaces de mort. Elle en aurait reçu plus de 50 000 messages haineux depuis janvier. La jeune fille est donc renvoyée de cet établissement militaire et va devoir terminer l'année scolaire en cours à la maison via les programmes du CNED. Une situation qui révulse son père dans une lettre adressée au colonel qui dirige l'établissement militaire, rendu public par nos confrères du Point. Il se dit effondré, partant de lâcheté dont on fait preuve, selon lui, dans un premier temps l'éducation nationale, qui a renoncé à scolariser Mila après le déferlement de haine provoqué par sa première vidéo, alors que, affirme-t-il, plusieurs des auteurs de menaces de mort ou d'appels au viol dont elle a été victime ont été identifiés mais n'ont jamais été sanctionnés. Et puis la lâcheté de l'armée qui explique ne pas pouvoir assurer la sécurité d'une adolescente qui, rappelle son père, n'a rien commis d'illégal. Ce constat est pour nous un film d'horreur, écrit le père qui conclut. Elle sera continuellement en danger, mais elle ne se soumettra jamais, contrairement à vous, colonel, et à tant d'autres.
Emmanuel Grabet, merci. Revenons à présent sur le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence. Hier, l'avocate de l'ancien président, Jacqueline Lafont, avait réclamé la relaxe de son client. Cet après-midi, le tribunal écoute les plaidoiries des défenseurs des deux co-prévenus du procès, l'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
En direct du palais de justice de Paris, Anne, les avocats demandent aussi la relaxe de leurs clients.
Dominique Allegrini, l'avocat de l'ex-magistrat Gilbert Azibert, a travaillé ses formules. L'accusation est remplie de vent et les avocats, tels des Don Quichotte, se battent contre des moulins. Il rappelle que Gilbert Azibert est un intellectuel du droit, ce qui a expliqué son intérêt pour le pourvoi de Nicolas Sarkozy à la Cour de cassation. Et non, son client n'a jamais cherché à avoir un poste à Monaco. On n'a pas les éléments intentionnels, on n'a pas les éléments matériels, on n'a pas de candidature, assène-t-il. Tout comme Jacqueline Lafont, hier, il dénonce le manque de preuves dans cette affaire. Il considère que le PNF est une institution nécessaire, mais qu'il s'est fourvoyé. C'est ce dossier, le virus, ironise-t-il, dans un rappel à l'actualité. Paul-Albert Ivins, qui défend l'avocat Thierry Herzog, poursuit. Pour ma part, je serai plus grave. J'ai encore en tête les réquisitions qui nous ont stupéfaits. Il parle d'abord en tant que citoyen. Ne doit-on pas s'interroger sur le fait de mettre 7 mois sur écoute le chef de l'opposition pour des faits qui remontent à 7 ans auparavant, sans tomber dans la victimisation? Moi, ça me choque. Puis il rappelle que le tribunal n'a pas réussi avant-hier à faire écouter les extraits de conversations reprochés à l'ancien président et à Thierry Herzog sur la ligne Bismuth. Tourné vers la présidente du tribunal, l'ancien bâtonnier, droit debout, exprime son trouble. Ces écoutes sont le pilier de l'accusation et quand on cherche à les voir, on se rend compte qu'elles ne correspondent pas aux procès-verbaux. C'est le dossier du soupçon, mais seul l'éternel peut sonder les reins et les cœurs, pas le PNF, lâche-t-il en citant la Bible.
Anne Fauquemberg avec Alexandra Bergel pour les moyens techniques. Merci. Comme promis, nous revenons à présent sur l'intervention de Jean Castex, le Premier ministre, qui s'exprime depuis quelques minutes sur l'éventuel déconfinement prévu la semaine prochaine. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
Le Premier ministre a d'ores et déjà fait plusieurs annonces, Claire.
Et oui, Jean Castex a dit que la situation sanitaire s'était améliorée ces dernières semaines, mais qu'elle marquait le pas depuis quelques jours. Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus, il tend même à augmenter légèrement. La partie est loin d'être gagnée, a déclaré Jean Castex. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a ensuite donné ses chiffres. 1,5 million de personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie dans le monde. Près de 30 000 décès sur le continent européen. L'Italie, l'Autriche, la Hongrie ou encore la Suède sont les pays les plus touchés en Europe. 11 000 nouveaux malades sont diagnostiqués par jour en France. Un peu de relâchement, les brassages et le facteur climatique en sont les causes principales, selon Olivier Véran. Et il a donc dit que nous n'attendrons pas les 5 000 diagnostics par jour au 15 décembre. Il y a d'ores et déjà plus de malades hospitalisés lors de ce deuxième confinement lors du premier. Jean Castex estime donc que nous ne sommes pas arrivés au bout de cette deuxième vague. Il est de notre devoir d'en tirer les conséquences, a dit le Premier ministre. Nous devons adapter les mesures envisagées au 15 décembre. Mardi prochain, les règles seront plus strictes que celles envisagées. Les établissements recevant du public resteront fermés 3 semaines de plus. Il s'agit des théâtres, des musées, des cinémas, des casinos, des salles de jeu. Les règles pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Et puis, dès le 15 décembre, il y aura le rétablissement d'un couvre-feu dès 20h qui sera strictement contrôlé.
Merci Claire Flochel. On rappelle donc cette information importante, la fermeture des lieux de culture. Cette fermeture est prolongée de 3 semaines et nous reviendrons bien sûr sur les annonces de Jean Castex dans nos prochains rendez-vous d'information. Un mot du temps demain, le temps qui se radoucit, une perturbation pluvieuse arrive par l'Atlantique. La pluie touchera la plupart des régions et la limite pluie-neige remontera en montagne avec un risque d'avalanche sur les Pyrénées. Température minimale de moins 3 à 8 degrés de l'est à la Méditerranée. L'après-midi, il fera de 4 à 16 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Benjamin Ducy.